merci, Patrick. Les motivations qui étaient à l'origine du dossier n'avaient rien d'exceptionnel. Il s'agissait de faire connaître un peu plus cette œuvre, l'œuvre de Jacques Rancière. Il s'agissait aussi de rendre compte de l'existence d'une communauté de lecteurs, celle que je connais en tout cas, et qu'on trouve surtout chez la jeune génération des chercheurs, disons ça comme ça. Et c'est une communauté de lecteurs qui ne se connaissent pas par ailleurs. Et aussi pour combler un vide qui est étonnant à l'égard de ce que je viens de dire, c'est-à-dire à l'égard du fait qu'il existe des lecteurs de Rancière. Ce vide, c'est l'absence de réception critique des ouvrages de Rancière dans les périodiques québécois au fil des publications de l'ouvrage, des ouvrages de Rancière. Et Spirale me semblait le lieu tout indiqué pour faire ce travail, pour combler ce vide et faire connaître cette œuvre en raison du format des textes et aussi en raison d'un intérêt partagé par Spirale et l'œuvre de Rancière pour une pluralité de disciplines, la littérature, l'art, le cinéma, l'histoire, la philosophie et aussi un peu la politique, enfin un peu plus pour Spirale. Faire connaître une pensée, ça se fait dans un acte de transmission qui suppose quand même la médiation de sujets, de subjectivités, donc des postures de lecture très différentes et des propositions de lecture aussi personnelles et parfois exclusives. Ainsi, dans le dossier, on trouvera à la fois des textes qui s'efforcent de rendre compte avec justesse des propositions parfois complexes des ouvrages recensés. On trouvera des textes qui proposent une lecture plus transversale, qui suivent un fil rouge, disons ça comme ça. Des textes qui esquissent des critiques de la pensée de Rancière et aussi des textes qui éclairent de nouveaux objets à la lumière de la pensée de Rancière. Le moment semblait propice pour le faire, d'abord en raison de la production intensive de Rancière, surtout depuis une dizaine d'années, et aussi parce que depuis 2004, on commence à rééditer beaucoup d'anciens ouvrages de Rancière, et aussi parce que commencent à apparaître des ouvrages qui portent sur le travail de Rancière. Je pense notamment à l'ouvrage de Chantal Nordman qui porte sur Bourdieu et Rancière. Le 40e anniversaire de mai 68 était une demi-coïncidence. C'était une coïncidence qu'il s'agissait surtout de faire signifier en disant que, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure durant la table ronde, mais c'était quand même l'occasion de dire que mai 68 a été un moment particulièrement fort et particulièrement marquant dans le parcours intellectuel de Rancière et qu'il y a beaucoup d'idées de la pensée même de Rancière qui peuvent éclairer mai 68, et mai 68 peut aussi éclairer des larges pentes de la pensée de Rancière. Je tiens à remercier les auteurs qui ont collaboré à ce dossier, qui ont contribué à en faire quelque chose de riche, à mon humble avis. Étienne Beaulieu, Antoine Boisclair, qui est ici présent, que je salue, Jean-François Bourgeot, Alain Deneau, André Habib, Jean-François Hamel, Moulo Dédir et Georges Leroux. Je remercie aussi les gens de Spirale pour l'accueil favorable qu'ils ont réservé à ce projet, pour la marge de manœuvre fort appréciable qu'ils nous ont laissée aussi, et pour le respect des auteurs et le respect des choix qui ont été faits et pour le respect des types d'interventions très différentes, dont le dossier et le lieu. Je les remercie. J'aurais la difficulté à imaginer un meilleur cadre pour faire une telle entreprise. Merci beaucoup.
Nous sommes ici donc pour parler de mai 68 et est-ce fini avec un gros point d'interrogation. Il est particulièrement significatif que cette table ronde effectivement se réunisse à la sortie de ce dossier sur Rancière parce que je crois que le tournant de Rancière, si on peut dire, la rupture avec Althusser, s'est produit un peu dans, peut-être que Martin pourra me confirmer ou infirmer, mais je pense que ça s'est produit un peu dans ces eaux-là, hein, dans les années 68. Peut-être justement, comme Althusser était dans la construction d'un système explicatif, on pourrait revenir à la boutade situationniste qui disait « les systèmes ne sortent pas dans la rue ». Et mai 68, effectivement, on a vu le peuple sortir dans la rue. Rancière s'est efforcé de rendre audible la parole des laissés pour compte en démontant les mécanismes sociaux qui les rendent invisibles. C'est là une des dimensions fondamentales de mai 68 comme événement historique. un titre d'un livre qui est de l'époque de Michel de Certeau, titrait « La prise de la parole ». La parole populaire prenait la rue, sortait des canaux où elle était filtrée, brisait la gangue qui la contraignait, la neutralisait, l'étouffait. Le peuple se représentait comme porteur de parole, d'agir, de désir, de volonté politique. Je pense qu'on peut penser mai 68 comme un événement surrectionnel, pour prendre le terme d'Anna Arendt, tel qu'il se produit épisodiquement dans l'histoire, à mesure où il laisse apparaître le politique dans sa radicalité, dépouillé de sa carcasse policière, pour prendre le terme de Rancière, c'est-à-dire régulatrice, gestionnaire. Une démocratie vivante face à un ordre naturel des hommes disposés en troupeau, encore selon les termes de Rancière. Ils rendent apparent mai 68, je pense, comme l'a analysé sur le vif Castoriadis et Claude Lefort, entre autres, dans La Brèche, un livre donc sorti en 68 et republié 20 ans plus tard, en 88. Rendait apparent le désordre social au sein de l'ordre social. Rancière aussi interpelle dans cet événement parce qu'il a théorisé précisément la dépolitisation de la société qui se nourrit de consensus et de neutralisation des conflits. Or, mai 68 est précisément la théâtralisation du dissensus et du conflit social. L'acte politique par excellence est celui qui ne marche pas, qui ne cadre pas dans les limites du possible et dicté, et qui ne s'inscrit pas dans la normalité de l'administration des choses, où les choses se passent en surprise à la portée des technocrates, des gestionnaires, mais bouleversent ainsi les rapports sociaux, notre rapport au monde, au sensible, et ouvrent ainsi largement le champ des possibles et en rendant incertain le cadre dans lequel le possible s'envisage. Mai 68 est certainement un tel événement, expression du miracle de l'agir dans la perspective d'Anna Arendt encore, la capacité d'initier de nouveaux commencements. C'est pour cela que je dis que cet événement passé n'est pas fini, mais perdure comme ouverture à des possibles inexplorés. Il fait partie, comme disait Karel Kozik, qui est un dissident du printemps de Prague, en parlant précisément de 68 dans le printemps de Prague, ce sont des défaites où germent des victoires futures. Alors, je vais donner la parole à Donald Kutuleta, qui est professeur à l'Université d'Outaouais et rattaché à la chaire d'Endurant en études stratégiques, à Véronique Dassas, qui est journaliste traductrice et membre du comité de rédaction de la revue Conjoncture, et évidemment à Martin Jalbert, qui a été présenté un peu avant. Je leur donne la parole donc pour 5 minutes pour réagir à cette question qui est posée. Hein. Est-ce fini? Je pense qu'il y a un certain consensus dans ce regard qu'on porte sur mai 68, mais dans des perspectives très différentes ou complémentaires, et on réagira. Je ferai circuler la parole, donc, après, en relançant sur des points, des questions. Et après, il y aura un temps, justement où vous pourrez librement poser vos questions ou réagir. Nous sommes dans un lieu, hein, ça serait étrange de ne pas partager la parole. Alors, je laisserai la parole peut-être à Véronique pour ouvrir la discussion.
Alors, fini 68, je vais vous dire que c'est d'abord l'idée de venir discuter avec d'autres revues que celle à laquelle je travaille depuis plus de 20 ans qui m'a fait d'abord accepter ce rendez-vous. discuter de 68, pourquoi pas, dans le fond, c'était un prétexte comme un autre. Et puis, j'ai rencontré un soir par hasard chez des amis quelques jeunes dont les propos sur 68 m'ont absolument atterré. Leur façon de voir 68, d'idéaliser la période, de regretter de ne pas l'avoir vécue, m'a fait entrer dans notre thème de ce soir avec une acuité toute particulière. En fait, je me suis demandé s'il ne valait pas mieux de garder nos souvenirs dans les boîtes réservées à cet effet, de mettre fin aux commentaires et surtout aux anniversaires. Au moins, on limiterait les dégâts. Passé ce premier mouvement d'humeur, je l'avoue, je me suis mise à osciller entre l'envie de discuter et l'envie de me taire. J'hésite encore. J'hésite entre l'idée qu'un passé récent, surinterprété, forcément mythifié, je me souviens des récits de la résistance anti-nazie qui ont bercé mon enfance et mon adolescence, est lourd sur les épaules des jeunes générations, et que ce poids ne peut être qu'un inhibiteur d'enthousiasme et d'action. J'oscille donc entre cette idée et une autre, qu'il vaut toujours mieux parler, échanger, se disputer sur le passé et sur l'avenir, et que, après tout, c'est la définition même de la politique. Après tout aussi, il pourrait bien y avoir dans toute cette confusion quelques réflexions intéressantes pour la suite. Je ne vous cacherai pas que, malgré mon grand âge, c'est la suite qui m'intéresse. Pour le moment, je me contenterai de trois remarques pour situer un peu mon angle de vue. En regardant en détail le battage français autour des 40 ans de 68, en consultant les sites d'archives maintenant disponibles de l'INA, l'Institut National Audiovisuel, qui donnent des échos des anniversaires précédents, parce qu'évidemment, tous les 10 ans, on remet ça, 68, 78, 98, 88, 98 et 2008. Donc, en consultant tout ça, il est vrai qu'on est pris de vertige. D'abord devant la quantité de mots, mais aussi devant quelques aberrations. Nous reviendrons peut-être sur les commémorations dans la suite de cette discussion, mais voici, je vous donne trois exemples, trois épisodes qui m'ont particulièrement frappé dans les commémorations de cette année. D'abord dans le quotidien Libération, qui demande sérieusement à Jean-Pierre Le Goff pourquoi 68 revient-il tous les 10 ans comme un leitmotiv obsédant. Comme quoi, on peut à la fois fabriquer un événement à partir de nécessités ou de désirs particuliers, et s'étonner dans le même temps de son existence. C'est un prodige. Un autre exemple, lu sur le site de Elle Magazine. Moi, je vais chercher partout, après tout. 10 ans après mai 68, Fauchon fait aussi sa révolution avec un nouveau thé vert de Chine qui s'inscrit dans la collection des thés Célébration. Commentaire de Elle Magazine. Et si ce n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours collectionner la très belle boîte métallique qui vous plongera dans le souvenir des slogans des mouvements populaires de mai qui célèbrent la liberté. Alors avec un magnifique jeu de mots sur thé, liberté, enfin c'est magnifique. Dernier exemple, celui-là trouvé dans les bonnes librairies. Alors j'espère que ici aussi peut-être, selon l'expression consacrée. Un livre en forme de pavé avec images et slogans d'époque. Ça donne envie de hurler, de ressortir de la panoplie situationniste, un peu de détournement. Cours toujours, camarade, la marchandise t'a vraiment rattrapé. Devant tant de délires marchands et de délires d'interprétation, il est clair qu'on préférerait se taire. Attendre que le temps fasse son œuvre, que les acteurs meurent et que 68 tombe dans l'oubli le plus complet. Ma deuxième remarque, elle est plus personnelle. En fait, je me suis rendu compte que je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir si 68 c'était fini. Parce que 68 a marqué ma vie et que du coup, j'ai un peu de mal à m'auto-liquider. 68 a marqué ma vie sur le moment, alors que j'étais encore au lycée, mais surtout dans les années qui ont suivi. Parce que les années 70 ont été pour moi et pour une foule d'autres, j'aimerais bien dire une multitude d'autres, des années de formation intellectuelle et politique. Des années de militantisme, d'abord en France, puis au Québec. Il a certainement bien des héritages possibles de 68. Certains y ont sans doute acquis le goût du pouvoir et de la représentation. Moi, j'y ai attrapé, comme beaucoup d'autres, une méfiance terrible et tenace à l'égard des institutions, très peu de respect pour les urnes et aucun pour les carrières, quelles qu'elles soient, y compris celles de militants. Tout cela a donné un très sérieux biais à mon existence. Tout cela qui fait qu'aujourd'hui, encore, je participe comme je peux à une réflexion collective sur la crise de la démocratie représentative ou sur l'imitation du travail. 68 m'a aussi appris, en creux, il est vrai, que la révolution, si jamais on la faisait à ce moment-là, ce serait l'affaire des hommes, et m'a donc jetée dans les bras du féminisme. Ma troisième remarque est plus directement politique. Je crois que les événements de 68 portent en eux la marque presque évidente de notre question de ce soir. En fait, dès 68, c'était à la fois déjà fini et pas fini, mais alors pas fini du tout. 68 était déjà fini en 68 parce que malgré nos dires de l'époque, les formes et les langages politiques choisis étaient déjà obsolètes. Les groupuscules que nous formions n'avaient rien à envier à la fermeture des partis traditionnels et à notre langage à la langue de bois. Au lieu d'aller vers la classe ouvrière, comme le voulaient nos principes, nous n'avons souvent été que de ridicules donneurs de leçons. Il y a, je dois le dire, aussi des exemples évidemment plus heureux que d'autres, des histoires, des rencontres passionnantes liées à cette aventure. Par contre, en 68, tout ne faisait vraiment que commencer, car la jeunesse qui se mettait en scène, en manifestant et en revendiquant, donnait peut-être ainsi une première image des travailleurs intellectuels du post-fordisme, une nouvelle version encore peu reconnue de la classe ouvrière, un nouveau visage en fait. Et c'était peut-être ça la révolution, mais nous ne le savions pas.
C'est à mon tour?
Oui. Okay.
Premièrement, je suis bien content de voir autant de personnes ce soir ici. Je ne m'attendais pas. C'est la première fois que je viens dans une soirée comme ça. Puis je veux remercier aussi Martin Jalbert de m'avoir invité pour venir ce soir pour donner un peu mes opinions sur mai 68. Je veux juste lire. J'avais écrit quelque chose dans le dernier Ababar, justement, qui portait sur mai 68. On m'a demandé d'écrire quelque chose, un peu mes impressions en tant que militant à l'époque. Et la dernière phrase, je vais vous la lire, puis pour vous dire comment que je vois mai 68, même aujourd'hui. 1968 demeure toujours un rappel de mon passé, du passé de ceux qui ont lutté avant nous et de ceux qui continuent à lutter dans l'avenir. Fait que pour moi, je ne m'attarde pas à un mois ni à une année. C'est quelque chose qui frappe. C'est surtout, j'imagine, les médias qui en ont fait le mai 68. C'est sûr que les événements se sont procédés à ce moment-là, un peu partout dans le monde. Hein. C'est pas juste en France, c'est aux États-Unis, partout. Donc, ça a eu un impact. Pour moi, ça a eu un impact depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis même avant la Deuxième Guerre mondiale, et ça se continue dans les forums sociaux qu'on voit au Québec, un peu partout dans le monde, la lutte altermondialiste, etc. Mais la question que je me suis posée, pourquoi il y a des gens, et surtout les gens bien placés dans les gouvernements un peu partout dans notre monde d'aujourd'hui, qui veulent qu'on oublie, qu'on n'ait plus de souvenirs, qu'on n'ait plus de mémoire, qu'on n'ait plus de critique même, parce qu'on peut critiquer mai 68. Hein? Pourquoi finalement enlever cette mémoire importante? Pourquoi finalement stopper la discussion? Pourquoi finalement en arriver à dire ça n'a pas existé? Puis si ça a existé, c'était complètement négatif. Comme quelqu'un avait écrit dans le devoir, je pense que Martin t'avait répondu, c'est simplement un parti de cul. Hein? Je pense que c'est ça qui avait été dit. Bon, tant mieux, c'est un parti de cul. Hein? On va dégraisser un peu la société, un peu. Moi, je pense que depuis les années 80, depuis la venue de l'idéologie conservatrice à travers les gouvernements qu'on a élus ou pas élus ou qui sont là, il y a un combat idéologique qui s'est installé. Quand on parle de conservatisme, les gouvernements conservateurs sont au pouvoir, c'est pas juste une question politique, c'est une question idéologique. Et donc, on voit depuis 80 avec Thatcherisme, Reaganisme, et etc., et tous les Berlusconismes, etc., etc., les Stephen Harperisme, puis les Jean Charestisme, puis etc., etc., parce qu'ici, c'est la même chose, puis évidemment, George Bush et compagnie. On voit finalement une attitude, une volonté de s'assurer que le passé de lutte n'existe plus. Que veut dire les conservateurs? Que veut dire l'idéologie conservatrice qui nous domine aujourd'hui? Soyons tous des individus, luttons plus pour nos droits, soyons tous des entrepreneurs, puis devenons tous des millionnaires, puis préoccupons-nous de notre voisin de l'autre côté de la rue. Tout à l'encontre des derniers 40 ans de lutte, que nous, on peut se rappeler, puis on est là, et tout à l'encontre des 100 ans de lutte que les peuples ont menés partout dans le monde. C'est voulu une brisure avec le passé. Et donc, pour la fin du 20e siècle puis le début du 21e siècle, l'exemple du passé, c'est mai 68. Mais pourquoi parler des révolutions bolcheviques? Pourquoi parler de la révolution française? Pourquoi parler de la révolution américaine? Fondamentalement, en arrière de tout ça, c'est de stopper les luttes. C'est de démontrer que dans l'histoire de l'humanité, on a que ce qu'on a aujourd'hui, comme nous ici au Québec, à Montréal, c'est parce qu'on n'a pas lutté pour ça. On a, au contraire, parce qu'on s'est battu pour ça. Parce qu'il y a des gens avant nous qui se sont battus pour ça. Puis si on veut encore une meilleure société, même sur le plan environnemental, il va falloir se battre encore. Mais l'idéologie conservatrice ne veut plus qu'on se batte. Elle veut plus qu'on se tienne debout, quoi. C'est pas important. C'est néfaste. C'est négatif. Donc, finalement, mai 68 devient le symbole de lutte des gens de ma génération et les générations qui ont suivi. C'est pour moi comme si j'avais vécu les années 20, puis j'avais parlé de la révolution bolchevique, avec tous les positifs ou les négatifs de la chose. C'est comme si j'avais vécu au début du 19e siècle, puis j'avais parlé de la révolution française ou de la révolution américaine, qui allait guider probablement mes pensées et mes actions, qui voulaient pour lutter pour une meilleure démocratie. Donc, finalement, le but d'enlever tout ça, c'est de nous dire on ne se bat plus pour notre amélioration de notre société. Tout est là. On est déjà, tout est là devant nous. Et donc, c'est de stopper les futures générations pour leur enlever cette mémoire du passé. Même si eux ont à lutter d'une façon différente dans l'avenir de ma génération, et tant mieux, parce que c'est leur génération, c'est leur condition, c'est leur société. Ce n'est plus la mienne. Mais néanmoins, on faut toujours tomber sur les assises du passé. L'histoire est importante. Malheureusement, je suis un historien, donc je presse pour ma paroisse, mais l'histoire est importante. Ça nous encourage. On apprend, j'espère. Donc, la volonté du conservatisme idéologique, c'est de couper ça. C'est qu'on pense plus, on débat plus, on discute plus. On n'a qu'à voir dans les universités et partout ailleurs, même dans la société. Hein? Donc, finalement, la volonté de stopper, comme Sarkozy a dit, même si nous, Stephen Harper l'a pas dit, Jean Charest l'a pas dit, George Bush l'a pas dit, peut-être qu'ils sont même pas conscients qu'il y a eu un mai 68, mais néanmoins, tu le vois dans leurs apports de leur idéologie, c'est de toujours parler au nom de l'individualité, l'individualisme, briser la collectivité, puis briser avec un mouvement de l'histoire. Briser, finalement, avec les luttes. Ose dire les luttes de classe, ou on peut dire aujourd'hui les luttes des multitudes, les luttes de la société civile aujourd'hui qui fait avancer, qui fait améliorer la vie de chacun de tous, pas juste simplement ici au Québec, mais à travers le monde. Et donc, cette volonté de même, je pense, de limiter l'envergure des luttes altermondialistes, qui sont quelque chose qui semble donner de l'ampleur puis donner de l'espoir à beaucoup de monde partout sur notre planète. Donc, il y a une volonté d'enlever de la mémoire. Puis moi, je me dis, il faut pas, ne cesse même pour le critiquer, ne cesse pour fouiller les pour et les contre, les positifs, les points positifs, les points négatifs. Il faut toujours chercher à aller de l'avant. Parce que ça nous encourage, nous, dans nos propres vies, de continuer. Donc, pour moi, mai 68, c'est un symbole. Comme la Révolution américaine est un symbole pour l'instauration de la démocratie, comme la Révolution française est un symbole de l'instauration de la démocratie, comme les révolutions qu'il y a eu dans les pays du tiers-monde pour se libérer du colonialisme et de l'impérialisme, c'est la même chose. Fait quand on veut nous couper de ça, dans le fond, on veut nous couper de notre histoire. Et si on n'a pas d'histoire, on n'a pas d'avenir, en quelque part. Je vais laisser les gens intervenir.
Oui, je m'inscris dans, en continuité de ce qui vient d'être dit. On aura l'occasion de revenir sur pour qui, pourquoi mai 68 est fini et on veut que ce soit fini. La question qui me semble, la question qui m'importe pour le moment, c'est pourquoi il importe de ne pas en finir avec 68. Et en un mot, je dirais que c'est pour garder ouverte la possibilité d'accueillir des spectres bienveillants. J'emprunte l'image des spectres à Marx et plus précisément aux 18 brumaires de Louis Bonaparte, dans lequel Marx écrit « Aux époques de crise révolutionnaire, les hommes évoquent les esprits du passé, leur empruntent leur nom, leur mot d'ordre, leur costume. La résurrection des morts dans ces révolutions sert à magnifier les nouvelles luttes, non à parodier les anciennes, à retrouver l'esprit de la révolution, non à évoquer de nouveau son spectre. » Là, Marx ajoute qu'il vient un moment où ces spectres qui ont veiller sur le berceau d'un monde maintenant né, l'image est de Marx, elle est très belle, il y a un moment donc où ces spectres disparaissent, un peu comme celui qui apprend une nouvelle langue abandonne à un certain moment sa langue maternelle. Pour Marx, évidemment, il s'agit de, bien sûr, de s'assurer que la révolution sociale tire sa poésie de l'avenir et non pas du futur, mais il reconnaît tout de même que les spectres peuvent jouer un rôle bienveillant dans l'auto-émancipation des hommes. Et voilà, donc ce souci de garder ouverte la possibilité d'accueillir les spectres, on ne sait pas si mai 68 peut un jour veiller sur le berceau d'un monde nouveau, mais bon, il faut quand même garder la possibilité. Et de le faire, ça suppose parfois un travail polémique fatigant, un peu harassant, c'est-à-dire de se confronter avec les multiples discours anti-mai de ceux qui ne veulent rien entendre au retour des spectres et qui ne veulent rien entendre non plus à l'esprit de révolution. Le projet de dossier qu'on a fait à Bâbord, on ne l'a pas mentionné, mais on a fait un dossier récemment, donc à Bâbord, ce projet procédait d'une anticipation qui ne demandait pas une perspicacité hors du commun, c'était, ça pourrait se résumer comme ceci, à simple. La manière dont les médias parlent des contestations contemporaines suffisait à nous faire craindre la façon dont ils allaient parler des révoltes d'hier, surtout si ces révoltes mettaient en scène un conflit qui nous concerne encore, qui concerne encore le monde contemporain. Ce conflit, c'est le conflit entre les riches et les pauvres, entre l'intérêt privé et le bien public, entre les possédants et les possédés ou les dépossédés, entre la logique du profit et la justice sociale, entre le droit de propriété et le droit à une existence et une vie saine garantie par un accès pour tous au logement, la santé et l'éducation, entre l'affirmation identitaire et la communion aux valeurs communes et la solidarité envers les damnés de la terre. En somme, c'est ce conflit qui fait la politique et dont la lutte de classe a été, historiquement parlant en tout cas, une des expressions les plus fortes. Nous craignons à Bâbord que le rouleau compresseur des discours de ceux qui ne veulent rien entendre aux révoltes d'hier et aux raisons de se révolter ne vienne anéantir la possibilité d'accueillir aujourd'hui certains spectres bienfaisants. Donc d'une part, il fallait donc essayer de tenir un peu en échec les idées, ces idées anti-mai 68, et de l'autre quand même, proposer de faire le voyage. Faire le voyage dans le passé de façon à attiser l'étincelle de l'espérance dont parlait Walter Benjamin, l'étincelle de l'espérance de ceux qui ont été vaincus. Donc on ignore si mai 68 va un jour jouer le rôle de ces spectres qui reviennent. Il y a une raison à ce doute, c'est que mai 68 a été un moment d'espoir, d'espérance et d'aspiration qui ne sont pas aboutis, qui ont été anéantis, qui sont restés enfin en souffrance. Pour cette raison, il me semble qu'il y a une fragilité supplémentaire qui affecte le spectre de 68. Et au milieu du concert des discours qui se multiplient sur 68, ces espérances, ces raisons de se révolter apparaissent à la fois comme quelque chose d'extrêmement fragile, d'immatériel, comme un spectre, et en même temps comme quelque chose qui a été extrêmement puissant, assez fort, en tout cas, pour mettre des gens en branle, pour amener des gens à se sentir emprise sur leur monde, pour amener des gens à faire quelque chose plutôt que rien, et les amener aussi à désobéir aux consignes de l'ordre et de la docilité plutôt qu'à obéir, quoi. Donc, nous avons affirmé tant qu'à nous être héritiers de 68. C'était une affirmation évidemment polémique en réponse à Sarkozy qui faisait des héritiers de 68 les responsables de tous les maux de la société contemporaine. Mais ce qui est sûr, c'est que notre conviction, c'est que c'est à ceux qui luttent, à ceux qui lutteront demain, que revient de retourner dans le passé pour aller chercher les spectres bienveillants qui garderont vive l'étincelle de l'espérance. En ce sens, on n'a pas à décréter la fin de 68. C'est un geste qui est arrogant et sinistre. ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de faire apparaître le passé comme porteur d'avenir, de potentialité, de possibilité que des gens aujourd'hui et demain pourraient chercher à réactualiser. C'est chercher à garder ouverte la possibilité de retourner dans le passé pour s'inspirer de ce qui a été expérimenté et alimenter notre réflexion sur le monde qu'on veut pas, le monde qu'on veut et les façons d'y parvenir. En ce sens, donc, c'est... Bon, Donald l'a bien dit, c'est de donner un avenir au passé et de donner aussi un passé aux luttes du présent et de demain. Pour parler en termes ranciériens, il s'agissait, dans le cadre de ce dossier, mais il s'agit de le faire dès qu'on parle de 68, il s'agit de disposer le donné, historique en l'occurrence, de façon à ouvrir pour le présent et le futur le plus de possible.
Alors, j'aimerais peut-être ouvrir une parenthèse parce que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Jean-Claude Ravet, je suis rédacteur en chef de la revue Relations et je suis là pour un peu animer, parce que j'ai commis aussi un petit texte dans mon édito sur mai 68. Et justement, et donc Donald et Martin et Véronique ont écrit aussi donc dans la dernière édition de la revue à bâbord qui porte sur mai 68. Donc on est dans le bain. Ici, on a souligné justement l'importance de la commémoration et de son utilité, si on peut dire, hein, à louer le présent tout en effaçant le passé. Hein. Et Donald aussi a parlé de cette peur ou de ce refus d'un regard sur le passé justement pour ne rien changer à l'état présent. Et comme l'a souligné effectivement Martin, il y a un point important, quand il mentionnait Walter Benjamin, il disait aussi, hein, dans ce rapport, à notre rapport au passé, je pense qu'il y a justement toute une problématique dans le rapport au passé qui est là très manifeste dans ces commémorations, hein. C'est qu'à chaque époque, il faut tenter d'arracher de nouveau la tradition au conformisme qui veut s'emparer d'elle, hein, a-t-il écrit dans ses thèses sur le concept d'histoire. Et je pense qu'on est là en face d'un grand défi, justement, hein, d'arracher, hein, ce passé, hein, qui est déjà récupéré, si on peut dire, ou neutralisé dans sa puissance d'évocation et d'interrogation pour comprendre le présent. Peut-être revenir un peu justement sur ces discours qui foisonnent, hein, de ces commémorations. On a souligné, Donald soulignait justement cet article dans Le Devoir de Stéphane Baillargeon, hein, qui réduisait mai 68 à une histoire de cul. On pourrait peut-être en parler, je ne sais pas si... Il y a aussi, pourquoi pas, quelque chose de réjouissant à concevoir ça, mais...
C'est un sens sexuel, quand même.
C'est ça aussi.
C'est,
hein,
c'est ouais. Pas une mauvaise chose, ouais, non, ouais, plus. Hein.
Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi à le dire comme ça, hein, même, ouais, si justement, effectivement, il y a une puissance qui peut être aussi émancipatrice dans cette histoire de cul, mais de la manière qu'il a été dit, je ne sais pas si c'est très émancipateur.
Non, moi je pense que vraiment, il est très 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 ironique. Enfin, pour lui, c'est vraiment la chose la plus basse qu'il peut dire. Alors, c'est hallucinant, parce que c'est un article très long quand même, très... Ouais. Substantiel, hein, enfin substantiel, très long. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, il parle de cette histoire de cul parce qu'il cite ce qu'aurait répondu, ce qu'il a sûrement répondu d'ailleurs, Cohn-Bendit lors d'une de ses comparutions où on lui demande que faisiez-vous tel jour. Et il répond, monsieur le président, je pense qu'il répond au président de l'université, je faisais l'amour. Et vous, ça vous a, à 3h de l'après-midi. Et je veux dire, le président, évidemment, est très choqué de la chose. Baillargeon reprend ça en disant, regardez, enfin, franchement, c'est pas sérieux, mais c'est hallucinant, quoi, de porter ça comme ça. Alors qu'en fait, bon, effectivement, d'accord, c'était peut-être bien ce qu'il y avait de mieux à faire ce jour-là à 3h. Et que, de toute façon, toute la question était là. Et que comment on peut considérer la révolution sexuelle strictement comme, ouais, une histoire de cul, strictement, ouais, comme une histoire privée, etc. Donc, bon, enfin, ça ne marche pas sur toute la ligne. Mais je pense qu'on peut aller, évidemment, beaucoup plus loin sur 68. C'est-à-dire, quand on demande, quand au moment de la grande grève. Moi, je prends mes exemples en France parce qu'en 68, j'y étais. C'est pas du pur chauvinisme, je le garantis. Ça fait 35 ans que j'habite ici et depuis, mes exemples sont pris au Québec. Mais bon, à l'époque, j'étais pas ici. Et donc, quand les ouvriers demandent plus de temps, ils demandent pas beaucoup. Mais pourquoi ils le demandent? Je veux dire, pour être avec leurs femmes et leurs enfants. Alors peut-être que dans le fond, Normand Baillargeon a très bien vu la chose.
Stéphane Baillargeon.
Stéphane. Normand, excuse-moi. Oui,
même,
il n'est pas là, mais je m'excuse.
Mais même dans l'article, il oublie. C'est quand le début ou les premières conséquences d'une génération qui vivait la soi-disant révolution sexuelle. Finalement, on avait brisé les cordes, finalement, qui nous avaient tenus un peu prisonniers, surtout ici au Québec, de l'Église catholique, etc., etc. C'est aussi la pilule qui arrive sur le marché, mais aussi 68, je m'en rappelle très bien, qu'il y avait 12 femmes qui s'étaient enchaînées devant le palais de justice de Montréal, qui se sont faites arrêter, puis ça s'appelle le mouvement de libération des femmes. C'était la première action qu'il avait prise. Donc, je veux dire, c'est ça aussi, cette affaire-là. Donc, c'est sûr qu'il y avait le sexe, le cul, mais en même temps, on se posait des questions sur le sexe, le cul. Est-ce qu'on avait toutes les réponses? Évidemment pas. On les a même pas encore aujourd'hui. Mais néanmoins, c'était le début. Donc, on avait fini avec un carcan, particulièrement ici, au Québec, puis même aux États-Unis, parce que c'est là que moi, j'ai vécu le Québec et les États-Unis, que j'ai vécu 68. C'était vraiment une libération, puis... Qui dit révolution, qui dit changement, dit aussi libération sexuelle, dit libération des personnes et tout ça, ça fait partie d'un tout. Et moi, je pense que c'est ça qui amène quelque chose de différent en 68, puis des années 60, c'est que on a ajouté ça, la question de la libération sexuelle, la question des hommes et des femmes, face à une gauche dogmatique des années 30, 40, 50, 60, qui est affermée. Aux États-Unis, on a appelé ça le « New Left ». Puis il avait raison d'appeler ça le « New Left », la nouvelle gauche. Au Québec aussi, on faisait ça. Puis on l'a vu en France aussi, puis un peu partout ailleurs. Même en Prague, 68, la révolte de Prague, c'était contre le soviétisme, soi-disant socialiste à la soviétique. C'était complètement ça. Fait qu'on a ajouté d'autres éléments à cette révolte. Donc, l'article de Bayon, tu vois, ça vaut même pas la peine d'en parler, on passe.
Mais j'aimerais quand même... je sais pas personnaliser le débat, mais effectivement, ce texte-là était assez hallucinant parce que c'était ajouter l'outrance à l'outrance. Mm. C'est vrai qu'en mai 68, il y a eu de l'outrance, il y a eu de la provocation. Ça faisait partie de l'esthétique de la contestation libertaire des situationnistes. Oui. Que Cohn-Bendit ait dit ça, effectivement, moi, j'en ai rien à foutre, personnellement. C'est-à-dire que... et bien d'autres gens ne voyaient pas le scandale. Le scandale n'était pas là, parce que pour bien d'autres gens, le scandale, il est beaucoup plus dans le pouvoir aux travailleurs, ce qui est beaucoup plus scandaleux, parce qu'il est difficile de le récupérer dans un système. Et à bâbord, quand on a eu l'idée de ce dossier sur mai 68, on imaginait bien qu'il allait y avoir toutes sortes de discours, mais on ne pensait pas qu'on allait aller jusque-là dans une histoire de cul. Enfin, c'est surtout que... c'est très secondaire. Ça m'apparaît être secondaire dans mai 68, qui est un mouvement politique, et c'est surtout une façon de secondariser la plus grande grève du 20e siècle, une façon de secondariser les raisons qu'on avait de se révolter, qui était l'anticapitalisme, qui était la guerre du Vietnam, qui était l'anti-impérialisme, qui était l'anti-bureaucratie dans les pays de l'Est ou aussi à l'intérieur des organisations traditionnelles jusque-là disponibles du côté des militants. Mais bon, bref, ce qui est dommage, c'est que cet article, après nous avoir rappelé que donc Daniel Cohn-Bendit effectivement, qu'il a dû dire des trucs comme ça. Après, donc, rappeler qu'il a dit « Je faisais l'amour, vous ne faisiez pas l'amour ». Ensuite, le journaliste ajoute « Voilà qui résume tout ». C'est ça le problème, c'est qu'on dépolitise complètement le rapport. Et ce que fait apparaître les discours sur mai 68 aujourd'hui, c'est que c'est pas une affaire d'historien, justement. Et on le voit de toute façon, à regarder les journalistes, les éditorialistes, on a de moins en moins besoin de revenir aux événements pour nous en révéler la signification profonde, ce qui est quand même assez hallucinant. Ensuite, non seulement c'est pas une affaire d'historien, mais peut-être qu'il existe justement pas d'histoire d'historien, d'affaire d'historien, surtout pour des épisodes particulièrement litigieux comme mai 68. Revenir dans le passé, c'est un geste qui se fait au présent, avec ce qu'on est, pour le meilleur et pour le pire, avec ce que Suzanne Jacob appelle notre version du monde. Et même si on dit qu'on n'en a pas, qu'on est neutre, pragmatique, post-idéologique, etc., non, c'est pas vrai. Ce qui apparaît dans le passé, dans la façon de lire les événements, c'est que l'antagonisme entre ceux qui s'accommodent très bien du monde tel qu'il est, ou bien parce qu'ils le subissent, ou bien parce qu'ils en tirent parti, et ceux qui le conçoivent et l'espèrent autrement, cet antagonisme est très actif, il est très fort, mais on voudrait nous le faire oublier dans le passé, en dépolitisant complètement l'événement, en nous parlant de l'outrance, et on dépolitise aussi complètement le présent, en insistant plus sur les raisons qu'on avait de se révolter à l'époque et les raisons qu'on pourrait avoir aujourd'hui de poursuivre ces mêmes raisons.
Il y a un élément culturel dans cette révolution de mai, à la fois un élément culturel et politique. Et souvent, je pense qu'on essaie de les disjoindre, et c'est ça qui fait perdre la substantifique moelle de mai 68, qui justement porte le culturel dans une vision politique et le politique dans une vision culturelle. Et on tend justement à séparer les deux champs comme s'ils étaient autonomes à une certaine mesure, mais sans vraiment les mettre en dialogue. Et je pense que mai 68 était de cet ordre. Hein. Il remettait en cause des comportements, des institutions, des rapports à l'autre, à l'autorité, et aussi l'économique et la tendance justement à la marchandisation qui prenait forme dès ces années-là. Donc il y a quand même cette interaction entre le culturel et le politique. Mmh. Hein, mais on dit, et je ne suis pas si sûr de ça, est-ce que vous l'êtes, vous, qu'on est face à une révolution culturelle qui a réussi, mais à une révolution politique qui a échoué.
C'est toute une question.
Est-ce que je me lance. Ouais. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par culturel et par politique, qu'est-ce qu'on entend par échec et par réussite. C'est déjà des questions qui sont pas simples. Alors, révolution culturelle réussie. Ça, c'est Manuel Castel qui a tenu ce propos-là, à ma connaissance, dans le Courrier international. Dans son texte, il était beaucoup plus explicite. Il disait « c'est culturel parce qu'on n'a pas cherché à prendre le pouvoir ». Et là, on a, voilà qui est clair, qu'est-ce que c'est que la politique, nous dit-il, c'est le pouvoir. Donc là, et c'est à peu près ce que disent les politiciens aussi, si vous voulez, c'est la version la plus arrogante, la plus caricaturale, c'est Jean Chrétien qui disait aux manifestants du Sommet de Québec « si vous voulez faire de la politique, allez vous faire élire ». Mais bon, on retrouve ça aussi dans des organisations de ceux qui disent... qui reproche aux mouvements sociaux de pas faire de la politique, mais ça veut dire quoi faire de la politique? Manifestement, ça veut dire s'inscrire dans les formes traditionnelles des institutions étatiques et de la démocratie représentative sans qu'on puisse les remettre en question. Donc c'est déjà quand même un problème à relever. Si on est rancérien, comme ça m'arrive de l'être, on va dire que la politique, c'est pas le pouvoir, c'est la constitution d'un espace où apparaissent des nouveaux sujets qui se constituent comme capables de parler du commun et qui sont capables de faire aussi apparaître des nouveaux objets qu'on va poser comme communs. Donc, avec une telle conception de la politique, mai 68 n'est pas un échec, c'est une scène politique qui apparaît. Oui. Évidemment, on pourrait être frustré de cette conception rancérienne parce que ça assure pas l'avenir d'un tel mouvement, ça assure pas la pérennité. Cette question-là reste complètement ouverte.
Pérennité, quelquefois, est très fatale aux gens qui font de la politique de façon plus traditionnelle, non? Je veux dire, c'est le temps qui les fait. Quand tu dis c'est décevant de la part de Rancière de dire ça, ça laisse ouvert, disons. Oui. Parce que la pérennité, elle n'est pas généralement à l'avantage de ces mouvements-là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est le point de vue de Rancière aussi. C'est-à-dire, c'est au lieu d'inventer les modalités de sa pérennité. Quelqu'un comme Daniel Ben Saïd va être un petit peu plus... Il va reconnaître qu'il y a effectivement un échec dans la mesure où, mai 68 n'a pas changé le pouvoir, ça a amené un retour de l'ordre très fort. Il y a eu quand même des gains dans les accords de Grenelle. C'était des gains du type augmentation du salaire minimum... droit d'association syndicale. Bon, c'était pas négligeable, mais c'était pas à la hauteur d'un tel mouvement qui a mobilisé 10 millions de personnes. Ça c'est clair. C'est sûr que
il n'y a aucune révolution qui a fait ça non plus. Mobiliser 10 millions de personnes.
Ouais.
C'est toujours les minorités qui font des choses. C'est une réalité. T'sais, on pense toujours que les grands bouleversements dans les sociétés, sur les grandes révolutions, c'est toujours la grande masse majoritaire. C'est faux. C'est faux. C'est une minorité agissante qui, plus ou moins, essaie de faire les changements radicaux qui nécessitent la société en place, avec toutes sortes d'erreurs, puis des fois, ils échouent. Donc, la question... Moi, je regarde 1968 en une volonté d'amener une nouvelle culture politique, de faire la politique autrement. En France, comme au Québec, comme en États-Unis, comme un peu partout ailleurs, c'est une réplique, finalement, versus une gauche qui était devenue extrêmement dogmatique, extrêmement stalinienne, extrêmement un marxiste quasiment endormi. Et c'est pour ça qu'à Prague, quand on parle d'un socialiste avec un visage humain, c'est une volonté de voir ça autrement. Donc, est-ce qu'on a échoué? De toute façon, les révolutions peuvent prendre des siècles avant que ça se produise. De toute façon, selon moi, ce n'est pas une question de 30 jours ou de 3 ans ou de 20 ans. C'est sur une longue, longue échelle. Mais je me dis, on n'a pas échoué en autant qu'on a développé d'autres choses. Regarde, juste aux États-Unis, pour Québec, tous les mouvements de contre-culture qui ont sorti de ces mouvements-là, qui continuent à persister aujourd'hui. Les gens ont regardé d'autres moyens de vivre, d'autres modèles de créer leur responsabilité, puis d'autres moyens de créer la relation avec d'autres dans leur société. Ça fait partie d'une révolution des mœurs aussi, une révolution d'une culture différente qu'on n'a pas vue dans les années 40, 50, les années 30. Donc là, c'est une volonté. Par contre, sur le plan politique, tout en voulant créer une nouvelle culture politique, malheureusement, on a tombé dans les mêmes dogmatismes du passé, même quand on est devenu des maoïstes, parce qu'on pensait que le maoïste était vraiment différent des soviétiques, mais finalement, on s'est rendu compte qu'on tombe dans le même panneau. Mais ça fait partie de l'apprentissage des choses, ça fait partie des choses, mais... Je regarde tout le côté, tout le mouvement des luttes de libération partout dans le monde, les Africains-Américains qui luttent pour leurs droits civiques, les femmes. S'il y a quelque chose qui sort des années 60, c'est le mouvement des femmes.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est évident. Selon moi, la révolution, elle est là. Et au Québec, c'est les femmes qui mènent la lutte pour avoir les garderies. C'est eux. Pour avoir le droit de travailler, encore les luttes aujourd'hui que les femmes travaillent égales, ça, c'est une révolution.
C'est vrai.
Donc, ça fait partie de cette... Puis ça a été ajouté en amenant une nouvelle culture politique. Parce que dans le passé, on n'a pas une politique comme ça, on n'a pas des luttes comme ça.
Je suis d'accord avec toi, je veux quand même rajouter un tout petit peu un mot sur les femmes, parce que moi, je pense que la vraie révolution de ces années-là, c'est effectivement la révolution féministe.
Absolument.
Mais elle se fait, cette réaction des femmes, cette entrée des femmes sur la scène politique et la revendication de leurs droits, elle se fait un peu contre les états-majors, y compris des groupes évidemment gauchistes.
Absolument.
Les féministes américaines s'insurgent contre le refus total de la New Left,
absolument,
dont tu parles, à les entendre.
Et
je veux dire, il y a plein de textes des féministes de l'époque qui disent nous, on fait la sale job, on leur écrit leur discours et eux, qui c'est qui parade en avant. Et moi, je me souviens très bien, mais vraiment très bien, dans les années 70 à la fac, je veux dire, on avait une panoplie d'hommes devant qui péroraient, qui faisaient de la théorie comme c'était pas permis. On s'emmerdait dans ces assemblées générales, c'était hallucinant. Et il n'y avait pas une femme sur les panels. Il n'y avait pas une femme qui prenait la parole. Donc ça, c'est venu après et contre.
Ouais. Sur l'échec, est-ce que je peux ajouter un truc?
Oui.
Moi, ce qui m'apparaît intéressant et le plus important, c'est qu'il y a eu quelque chose plutôt que rien. C'est un peu moins lourd à porter. Ce qui est lourd à porter aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que les travailleurs du secteur public n'aient rien fait quand le gouvernement a imposé sa loi 142 en imposant les conventions collectives et l'impossibilité de la contester. C'est vrai que le rapport de force travailleur et État-capital est complètement asymétrique aujourd'hui. Il ne faut pas blâmer les syndicats de ça. Mais j'aimerais lire un petit passage qui est de Jean-Christophe Bailly sur cette question, qui me semble magnifique.
Le livre de Daniel... Ben Saïd, ça,
voilà. La quantité d'illusions était sans doute énorme. Mais s'il n'y avait rien eu, s'il n'y avait pas eu ce mouvement, ce sursaut, la convergence active de tous ces refus, ne serions-nous pas alors couverts de honte et tout autrement que pour les bévues que dans le feu de l'action nous avons pu commettre? Ça m'apparaît quand même assez magnifique.
Oui, je pense qu'il y a dans mai 68 une valeur dans la défaite, je veux dire. Et c'est ça peut-être qu'on ne veut pas se remémorer, Hein, c'est peut-être ce que signifie mai 68 dans son refus d'une société ou d'une structure sociale et d'un rapport à l'autre. Il y a là quelque chose qui n'est pas mort. Hein. Je veux dire, il y a une défaite, mais il y a aussi une célébration dans le monde actuel, justement, de ce qui était contesté dans mai 68. Les rapports de pouvoir sont là encore. Hein. Le consumérisme qui était remis en cause dans le mouvement de mai 68, il se répand et montre son visage aussi d'exploitation et de misère que cela produit ailleurs. Hein. Il y a donc une société qui est remise en cause dans tous ces mouvements qu'on voyait justement dans, pas rien qu'en France. On voit, hein, c'était aux États-Unis, c'était en Amérique latine, oui. C'était le mouvement de décolonisation, oui. C'était donc des mouvements un peu d'insurrection face à une société qui finalement exclut, hein, et se bâtit dans l'exclusion. Et je pense que c'est peut-être ça que mai 68 nous rappelle et qu'on ne veut pas se souvenir, quoi. Hein. C'est le conflit qui est toujours présent. Hein. Et c'est un peu justement ce discours qui est un peu dans cette commémoration, dire finalement il n'y a plus rien à changer maintenant. Hein. Les jeunes ont fait leur révolution, ils ont fait leur trois petites stepettes et là maintenant on est tranquille. Mais je ne pense pas que c'est exactement ça.
Effectivement, parce que l'antagonisme entre les différentes versions du monde est bien présent dans la façon dont on va parler de l'échec de 68. Ou bien on dit mai 68 a échoué et on s'en réjouit. Et là, ce qu'on fait, c'est que, pour le dire franchement, c'est qu'on tape sur les vaincus et on se réjouit qu'il y ait eu des vaincus, on est content parce que il y a pas d'alternative. Hein, c'est la preuve qu'il y a plus moyen de faire de révolution, il y a plus moyen de rien changer, le capitalisme est capable de tout intégrer. Ça, c'est enfin bon. Ou bien l'autre possibilité, c'est on dit c'est vrai qu'il y a eu un échec, ce qu'on a obtenu, c'est pas à la mesure de, c'est pas à la hauteur d'un mouvement, et on se dit que on a échoué avec eux. Et ensuite, on se demande, ben, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais en se demandant cette question-là, c'est la question qui est la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on va faire si un jour une telle situation se présente? Donc, c'est deux attitudes différentes devant le même constat.
Mais on n'a pas... Oh, excuse-moi, vas-y.
Je voudrais quand même signaler que les 68 heures, en tous les cas français, nous aident un tout petit peu à dire qu'il n'y a plus rien à changer. Parce que, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'entre eux qui sont dans l'establishment. Je veux dire, que Cohn-Bendit soit devenu ce qu'il est devenu, bon, moi, j'ai pas grand-chose contre lui, mais non. Je veux dire, c'est un notable de la politique, un peu un repenti quand même. Il dit lui-même qu'il faut tourner la page, etc. D'ailleurs, bon, on peut dire qu'il faut tourner la page. La question, c'est de savoir comment on la tourne et qu'est-ce qui se passe après, quelle est la page suivante. Enfin bon, on peut jouer sur les mots. Mais il y a plein de gens, enfin je veux dire que ce soit Serge Julie à Libération, qui est un patron de presse, enfin je veux dire, il a quand même démissionné sous le coup de Rothschild. Quand même, un peu de panache, mais je veux dire, il a été là pendant bien longtemps. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont au pouvoir, donc il faut pas mettre tout le blâme sur le libéralisme idéologique, disons. Les 68 heures participent aussi, enfin en tout cas pour certains, de cette rentrée dans l'ordre.
Ouais, mais il faut qu'ils mangent, eux autres aussi. Fait que c'est clair que peut-être ces barricades, c'est bien intéressant, mais dans les ans 75, 76 et 80, quand t'as des enfants, puis tu te maries, puis tu veux faire une vie, puis tu veux continuer à lutter, à un moment donné, il y a des réalités. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Je veux dire, le cas de Serge Julie, je pense que c'était quand formidable qu'il y ait un journal qui était peut-être le seul en France pendant de nombreuses années qui parlait justement des luttes un peu partout. Bon, ben, il fallait le fonctionner comme un journal fonctionne dans une société dite capitaliste. Donc, on fait des compromis, mais on fait des compromis à tous les jours.
Ça en fait beaucoup. Hein?
Oui, je trouve.
Ben, moi, je pense pas. Je pense que, parce qu'il y a une mentalité dans la gauche à laquelle moi, je me bats. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est toujours comme ça. Pour être de gauche, il faut que tu sois pauvre, faut pas que tu sois ici. Écoutez, là, quand on lit Karl Marx comme il faut, Marx a dit que les révolutions vont venir dans les sociétés industriellement avancées. Canada, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest. C'est ça que ça veut dire. Parce que nous, on va passer à une étape sans y croire toujours, simplement, en théorie. Donc, il faut arrêter de penser que pour être quelqu'un de gauche, il faut absolument qu'on soit des pauvres, qu'on soit tout de suite bien-être social. Ça, on a lutté ça au Québec aussi dans les années 60. Le vrai travailleur, le vrai révolutionnaire, c'était le bon petit travailleur. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ça, dans ce sens-là, je pense qu'il faut s'éloigner de ça. Fait qu'à un moment donné, il y a une réalité qui dit, même Daniel Ben Saïd est devenu prof d'université. Bon, prof d'université en France, c'est bien, hein? Mais en même temps, il y a un discours de gauche. Il continue à travailler, à faire son bout de chemin, tout en sonnant son chèque de paye. Puis c'est correct, ça. Il n'y a rien de mal là-dedans. Serge Julie, la même chose. Fait que je me dis, il faut faire la part des choses à un moment donné, qu'on ne peut pas tout rester... je ne sais pas, tu sais, mais je pense qu'il faut s'éloigner des fois de certaines choses. Parce que il faut que tu vives. Moi, j'ai des camarades qui ont battu comme des chiens pendant 35 ans de leur vie, qu'aujourd'hui, ils ont une petite business, puis ils font de l'argent, puis ils ont une belle petite maison de campagne. Mais tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Non, mais ils n'ont pas volé cet argent-là, ils ont travaillé pour.
Je ne moralise pas comme ça. Ah, mais... Je veux dire, moi, ils peuvent bien garder de l'argent. Je parle du discours.
Ben, tu, le discours change en fonction des conditions, puis on ne peut pas tout rester... écoute, regardez Marx aujourd'hui, c'est plus regarder Marx comme il était au 19e pour 20e siècle. Marx appliqué aujourd'hui, il faut qu'il tienne compte du travailleur autonome, qui travaille avec la classe ouvrière, comme on l'a vu dans le monde industriel, n'existe plus. En Amérique du Nord, c'est du robotique et de la high-tech. Comment qu'on applique Marx à ce moment-là dans notre continent? C'est ça la question. Ça veut dire que même les gens de la classe moyenne, même ceux qui gagnent 300 000 piastres au Québec, ils font partie de cette multitude-là. Ils sont pas à l'écart non plus. Le médecin n'est pas à l'écart non plus. Tout ça, il faut tout réexaminer ça. C'est ça que je me dis. C'est pas...
Non, mais enfin, l'idée que les idées qu'on tient dépendent de la condition qu'on a est assez scandaleuse. ça m'apparaît difficilement tenable. Mais c'est surtout que je crois il faut surtout se garder du procès des individus, des anciens revenus ou repentis. C'est vrai qu'en France, c'est quand même très fort. Là. On ne reproche pas à Serge Julie d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est d'avoir tenu les propos qu'il a tenus, d'avoir pris les positions qu'il a tenues. Ça, c'est autre chose. Mm-hmm. Et de toute façon, il me semble qu'il faut aussi se garder de faire le procès des individus. Bien parce sûr. Que c'est le discours de Sarkozy, c'est le discours de tous ceux qui veulent... Oui, alors que, bon, ce qu'on va dire, par exemple, c'est que mai 68 a amené l'individualisme consumérisme, hédoniste, machin, et à aucun moment on se demande c'est qui ces 68 heures, comment se fait-il qu'il y avait 10 millions de personnes en grève à ce moment-là, et ces 10 millions de personnes-là, ben, ils sont pas devenus des mandarins pour autant. Et aujourd'hui encore, il faut... dans une société comme au Québec où en 25 ans, le salaire moyen a augmenté d'une pièce par semaine, c'est pas sûr que c'est tout le monde qui peut être des surconsommateurs et des hédonistes et des individualistes comme ça. Et surtout, c'est que ce discours est un discours revanchard et culpabilisant et moralisant qui est pas celui de Donald. Là, c'est pas du tout.
Non, mais c'est juste que c'est
ce même discours. Quand on s'en tient à faire quand on fait des critiques des individus comme ça, on perd de vue que c'est pas les individus qui vont défaire les solidarités, c'est des politiques, c'est les politiques néolibérales qui généralisent la concurrence entre les individus, qui brisent les solidarités dont procèdent les programmes sociaux, etc. Donc, vous voyez, c'est pas du tout... il faudrait pas qu'on tombe dans le procès des individus, mais c'est qu'on en reste quand même au niveau des structures globales étatico-capitalistes.
Il faut même regarder des nouveaux travaux comme l'anglais John Holloway qui dit... faire la révolution, arriver au pouvoir sans prendre le pouvoir de l'État. Ça, je veux dire, ça veut dire quoi, ça? Tu sais, c'est toute une nouvelle conception de l'application du marxisme dans les sociétés. Donc, on pense à d'autres façons. C'est pas uniquement de prendre le pouvoir étatique, parce qu'on sait que l'État est déjà un instrument pourri. Puis d'ailleurs, il fait dans son dernier livre, c'est extraordinaire comment il fait la chute de l'Union soviétique, la chute de la Chine, la chute... Parce qu'effectivement, c'est le vieil concept qui... Fait que lui, il dit non, il faut prendre le pouvoir autrement. Donc, c'est des nouveaux concepts qu'on va appliquer un peu partout. Donc, je pense que c'est ça qu'un mai 68 nous amène aussi, d'être capable de tout regarder ça puis nous mettre en cause, nous autres aussi. Je veux dire, écoute, je suis devenu prof d'université, moi. J'étais travailleur d'usine à l'époque. Bon. Tu sais... C'est, je veux dire, bon, pour autant, je suis content d'avoir mon chèque de paye, mais pour autant, j'ai pas perdu mes idées. Fait qu'à quelque part, je pense qu'il faut être capable de relativiser. Puis moi, mon expérience à moi en Amérique du Nord m'a toujours dit qu'on a oublié souvent quand on militait qu'on était en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, là, c'est... Je me rappelais toujours, moi, quand je diffusais les journaux devant les portes des usines, puis des gars me disaient « Pourquoi je prendrais ça? Tu veux que je mange avec des baguettes? » Tu sais, dans le fond, parce qu'ils savaient qu'on était des maoïstes, des marxistes-léninistes, donc « Mange avec des baguettes. » Il dit « Moi, je veux travailler, je veux l'avoir, ma petite maison. Je veux faire mon 50 000 piastres par année parce que je suis un machiniste. » C'est correct, ça. C'est correct, ça. Parce que lui, s'est battu, il a fait des grèves. J'ai vu des femmes de ces gars-là sur les lignes de pitage pour qu'il y ait une augmentation de salaire, puis la police arrivait. Fait qu'il a le droit à ça. Parce que notre société nord-américaine est capable d'y payer 6 fois plus que ça, avec les profits qu'on fait. Puis le salaire minimum, c'est tout ça. Fait que je pense que souvent, il faut aller au-delà de la question. Je pense que la gauche, c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit... Il faut qu'on soit toujours en sandales. Là. J'arrête ça, là. Faut arrêter ça. Non, je ne suis pas en sandales. Je me suis lié.
Moi, je le suis.
Non, mais vous comprenez l'image, là. Ben, moi, je vais revenir sur une autre affaire que toi, tu avais dit tantôt, que je trouve très intéressant, par rapport que les définitions ont changé aussi aujourd'hui par rapport à cette époque-là au niveau de la linguistique. Puis on sait que souvent, la linguistique, le langage, est la porte ouverte au niveau de notre pensée. Et souvent, je pense qu'aujourd'hui, on a commencé à redéfinir les mots, puis on utilise d'autres mots. Puis on veut faire oublier d'autres mots qu'on utilisait dans le passé. Aujourd'hui, on ne parle plus de capitalisme. On parle du libre marché. Le marché est libre. À ce que je cherche, le marché, c'est une prison. Mais il est libre. On ne parle plus de capitalisme. On ne parle plus d'impérialisme aujourd'hui. On dit que les États-Unis se promènent un peu dans le monde pour amener sa démocratie. OK, c'est bien beau tout ça. Ben, les Français ont fait la même chose avec leurs colonialistes, pour amener la civilisation française. Puis les Anglais, c'était pour amener finalement l'économie anglaise, l'industrialisation. Toutes des belles paroles. Mais finalement, c'est du colonialisme impérialiste. Mais on ne parle plus de ça aujourd'hui. On a peur de ces mots-là. On ne parle plus de lutte de classe. On a peut-être la misère à le définir aujourd'hui, mais on n'en parle plus. On parle plus de lutte. C'est fait que finalement, on est une société de libre marché. On est une société d'individus. Mobilité sociale. Ah oui, il y a beaucoup de mobilité sociale. Je suis pas sûr de ça. Donc, déjà là, ils ont transformé la façon qu'on pense. La façon qu'on pense. Et qu'on n'utilise pas les vrais mots qui définissent la société dans laquelle on est. C'est exactement ça. Donc, à quelque part, je veux pas dire qu'ils ont gagné la bataille, mais au niveau de la pensée, c'est ça que ça veut dire. Si tu utilises les mots puis tu penses autrement, tu ne fais plus les mêmes analyses. C'est clair, ça. Tu ne fais plus les mêmes analyses. Puis moi, je pense qu'on est rendu au croisé des chemins, présentement, sur ça.
Ça me fait penser, justement, à Maurice Blanchot qui disait une chose intéressante de mai 68. On va revenir, là, on va parler... peut-être qu'on va...
Oui.
Évidemment, il disait « Jamais les étudiants n'ont agi comme étudiants, mais comme révélateurs d'une crise d'ensemble, comme porteurs d'un pouvoir de rupture mettant en cause le régime, l'État et la société. » Je pense que c'est un élément qui porte aujourd'hui de mai 68, c'est que c'est un révélateur, et un révélateur de conflit permanent de la société. Comme on dit, on ne parle plus de conflit, là, et parler de mai 68, c'est l'occasion de parler de conflit. Conflit actuel, on ne parle plus de conflit, maintenant on parle de compétition, c'est effectivement. Mais alors justement, comme héritier de 68, qui pourrait-on nommer comme héritier de 68 dans la société actuelle, ou qui peut reprendre justement les thèmes qui portaient et que les étudiants et les ouvriers dans les rues et qui comme révélateur d'une crise de société et de régime?
Tu me poses la question?
Je te regarde, mais je vais lancer un peu.
Moi, je dis n'importe qui dans la société civile qui lutte aujourd'hui. C'est ça. C'est ça la leçon de mai 68 et toutes les batailles du passé. Maintenant, il y a des gens qui luttent pour la question, je sais pas, contre les éoliennes à tel endroit parce qu'ils n'en veulent plus, parce que finalement, ça les dérange, mais ils ont le droit de se battre. Il y en a d'autres qui se battent pour les meilleurs salaires. Il y en a d'autres qui se battent pour, finalement, une meilleure vie au niveau du plan de l'environnement. La société civile bouge. Elle n'est pas organisée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas idéologique, mais elle bouge partout. Les gens disent non. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est moi, pour moi, c'est le seul espoir, c'est l'espoir que j'ai. Quand j'assiste au Forum social du Québec l'année passée, puis je vois qu'il y a 5000 personnes qui se sont présentées là pour discuter comment qu'ils voient l'avenir ici au Québec, au Canada, puis même aux États-Unis, je me dis, il y a de l'espoir. Mais c'était pas des gens qui parlaient de politique ou d'idéologie, c'était des gens qui luttaient. Quand je vois de développer les nouveaux rapports humains entre les gens, que ce soit hommes, femmes, que ce soit les hommes avec les enfants, etc., etc., c'est déjà ça, un changement, c'est de volonté. C'est dans la quotidienneté que les gens luttent, sauf qu'on n'en parle pas, parce qu'il ne faut pas parler de lutte, mais ça se fait à tous les jours. Puis moi, je regarde ça, puis je me dis, hein, les gens n'ont pas peur de dire non. Les gens n'ont pas peur de se tenir debout. Pas pour le grand soir, puis le grand... mais à tous les jours, partout. Et pour moi, c'est ça qui fait que le mouvement, il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Et ça me donne de l'espoir, en tout cas, à moi.
Martin, toi?
Ben la phrase de Blanchot, moi, elle met le doigt, me semble-t-il, sur le fait que les étudiants, en 67, en 68, leur mouvement n'était pas réductible à des questions étudiantes. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs façons d'ouvrir le mouvement et les revendications. La première chose, c'est qu'il y avait une critique qui était faite du rôle de l'école et de l'enseignement à l'intérieur de la société. C'était, on veut pas devenir les cadres d'une société bourgeoise inégalitaire. On veut pas devenir les flics des patrons. Donc, c'était un constat sur le monde tout entier. Ensuite, les étudiants étaient mobilisés par la guerre du Vietnam dès 65. C'était des questions de société. C'était donc des révélateurs d'une crise d'ensemble. C'était l'anticapitalisme. Il y avait, commençait à circuler de plus en plus chez les étudiants la volonté de créer des liens, de faire se rencontrer des gens, d'aller avec du côté des ouvriers. Et puis, il y avait la critique de la bureaucratie, enfin, ça, j'en ai parlé rapidement. Donc, c'est en ce sens que les étudiants n'ont jamais agi comme étudiants, mais comme révélateurs d'une crise d'ensemble. Je pense que, quand même...
Mais aujourd'hui... Là.
Aujourd'hui, oui. Les étudiants, les mouvements étudiants en France, ou même le mouvement étudiant au Québec en 2005, étaient en ce sens, héritiers de 68. C'est-à-dire les étudiants ici au Québec, surtout du côté de la KC, ont refusé d'être strictement dans les affaires étudiantes. C'est un constat sur la société au complet. Quand les étudiants disent une société mal éduquée est une société pourrie, ben c'est un constat d'ensemble. Ils font un constat, ils révèlent quelque chose, une crise d'ensemble. Et ils ont agi aussi dans leur lutte anticapitaliste, puisque c'est comme ça qu'ils se définissent aussi. Ils ont agi aussi dans le sens de la poursuite de la critique anti-bureaucratique. Il y a eu une façon, à l'intérieur même du rang des militants de la KC, de concevoir le rapport entre les porte-paroles et les gens qui luttaient. C'est-à-dire qu'on l'a entendu souvent dans les médias, les porte-paroles étudiants qui disaient « Moi, j'ai pas été mandaté pour ça. C'est l'Assemblée générale qui me demande de vous dire ça. » Donc, cette façon de jamais personnaliser la lutte, d'insister sur la figure de la lutte comme le sujet anonyme mais massif, et de ramener la politique à l'Assemblée générale et à la rue. Ça, c'était quand même une façon, ça m'apparaît une façon de poursuivre un certain héritage de 68. Ensuite, il va y avoir d'autres héritiers de 68, heureusement, et ce sera à eux de savoir comment convoquer ce passé.
Moi, je serais bien malaisée de désigner les héritiers de 68, mais par contre, je peux repérer, j'ai deux exemples de gens qui citent, c'est-à-dire 68 dans leurs appellations. Je pense au collectif des gens qui ont écrit un livre qui s'appelle « Libres enfants du savoir numérique », qui était une évidente référence à « Libres enfants » de Samary, et qui a été un texte très important en 68. Et donc cette façon de lutter pour le logiciel libre contre la propriété intellectuelle, contre le droit d'auteur, oui, me semble, alors que ça, là-dessus la gauche est extrêmement partagée, puisqu'il y a quand même toute une partie de la gauche qui défend le droit d'auteur comme un salaire, et alors que pour moi c'est une lutte absolument réactionnaire d'une certaine façon. Donc les gens qui luttent comme ça pour ces gens-là qui rappellent dans leurs mots des icônes de 68, ben, j'imagine que ils en sont un peu les héritiers, tout en créant des niveaux de lutte complètement inédites. Je veux dire, des choses que que nous, on n'avait pas tout à fait, encore que, évidemment, Guy Debord était absolument, le situationniste était absolument contre le droit d'auteur, ouais. Même si par la suite, ses ayants droit ont renoncé à ses principes, disons. Ensuite, j'ai un autre exemple. Je parle de choses qui se passent en Italie dans le milieu de la mode. Le milieu de la mode n'est pas réputé pour être un milieu particulièrement révolutionnaire. Mais il y a eu une action que j'ai trouvée assez intéressante, dont on parle dans le dernier numéro de la revue, et qu'on a emprunté d'ailleurs à un article de Multitude, la revue française, et qui raconte une expérience de gens précaires dans la mode qui ont fabriqué une fausse marque, qui ont fait un battage pas possible, qui ont décidé de faire... Et en fait, qui ont fait une immense manifestation pour le travail, pour sensibiliser les gens au travail de travailleurs précaires, qui sont évidemment la majorité dans ce milieu-là. Et eux, quand ils parlent de leur lutte, ils disent... Il fut un temps où nous aurions cassé les vitrines de la rue principale à Milan, où la vie, je ne sais plus comment elle s'appelle, Corso Napoléon et je ne sais pas quoi, où il y a tous les boutiques de luxe. Et ben aujourd'hui, on casse des images virtuelles, on fabrique des images comme ça. Ils ont baptisé un saint qui s'appelle Saint Precario, donc c'est le saint précaire, le saint de tous les travailleurs précaires. En tout cas, il me semble qu'il y a des luttes qui innovent tout en rappelant dans leurs appellations, tout simplement dans leurs commentaires, qu'ils connaissent leur histoire. Mais selon moi, le champ des luttes est déplacé.
Je pense qu'on pourrait nommer aussi le mouvement altermondialiste, je pense, dans cette volonté de remettre en cause la mécanique même de la société et ces dogmes de croissance, de profit à tout prix, de cette destruction même des rapports humains au nom d'une logique économiste et tout ça, je pense, et qui réduit la terre à une seule marchandise et aux conséquences que l'on voit actuellement. Mais maintenant, le temps est justement à la prise de la parole et c'est à vous. Oui. Oui.
Alors, l'absence de micro dans la salle n'a malheureusement pas permis de capter adéquatement les questions. Cependant, puisque le débat était tout de même intéressant, nous nous permettons ici de reprendre en voix off l'essentiel du contenu des interventions pour qu'il soit possible aux auditeurs de suivre les réactions des panélistes. Alors, résumé de la première intervention. Alors, il dit en gros que plusieurs penseurs italiens croient que 68 constitue un tournant dans l'histoire de la modernité parce que tout était prêt pour que quelque chose se produise. Ce qui était prêt, c'était une sorte de mouvement de la politique et de la technique qui nous amène à la possibilité de créer de la richesse de façon non humaine. La société pourrait donc nous permettre de ne plus travailler. Est-ce possible? Et est-ce possible d'amener ce mouvement dans d'autres sociétés? La question posée ultimement, c'est quel est ce qui, au fond, permet à 68 d'être 68? L'intervenant a ajouté que si le changement était possible, selon lui, c'est à cause des changements dans le monde du travail qui a notamment vu disparaître l'ouvrier. Il y a donc eu une transformation sociale du monde du travail.
Qui vient de nous, d'ailleurs? Oui. Qui vient de nous?
Moi, je suis trop jeune.
Non, mais qui vient... Non. Mais qui vient de nous? C'est toujours l'impression que ça vient des autres, mais c'est nous qui forçons certaines choses. Il y a un progrès dans ce que vous avez dit là par rapport à en arriver un jour de ne plus travailler. Moi, je crois que le travail, c'est la dernière frontière de l'esclavage, à quelque part. Et ça pose la question, la contradiction, que peut-être en mai 68, on a commencé à vraiment regarder comment répandre la richesse d'une façon équitable tout en travaillant moins. C'est le défi de nos sociétés à nous. On est rendu là, en tout cas pour les sociétés nord-américaines et l'Europe occidentale. C'est les défis qu'on se pose. Puis par rapport à l'Afrique, je suis un peu... Parce qu'il y a au moins les valeurs culturelles de communautarisme existent toujours, même si dans la question de la pauvreté. Mais ça, on a perdu, sous de notre matérialisation de notre société, on a perdu le sens de la communauté, le sens de travailler ensemble, de se voir dans l'autre, hein? Se voir dans l'autre, même si l'autre vient d'un autre pays. Parce qu'on l'a, ça. C'est tout ça que je pense que...
Il ne s'agirait pas de retomber avec, dans une version déterministe de l'histoire. C'est peut-être ça qui m'apparaît être problématique, c'est-à-dire de dire que mai 68, au fond, c'est l'aboutissement qui devait arriver parce qu'il y a eu des changements, des transformations sociales. Oui, mais ça m'apparaît problématique parce que c'est quelque chose qui aurait pu ne pas avoir lieu. Et c'est ça qu'on oublie, c'est la contingence de l'événement. Il y a des gens qui ont pris des positions, qui ont fait des choix, qui ont dit on fait ça plutôt que rien, et ça a eu lieu, mais ça aurait pu ne pas avoir lieu. Il y a un optimisme peut-être qui vient de Négri, je sais pas, peut-être que... Mais chez Négri, c'est plus il y a de capitalisme et plus il va y avoir de communisme. C'est un peu ça, c'est pour ça d'où peut-être que je me trompe dans ce que vous dites, mais plus il y a de... L'Afrique est plus avancée, justement, parce qu'elle pourra transformer là même où il y a des attaques les plus féroces. Enfin, je ne partage pas complètement cet optimisme, mais je me trompe peut-être.
Oui.
Question 2. Parce que mai 68 était une rupture, tout s'est arrêté, les gens ont été dans la rue. Question 2. Parce que mai 68 était une rupture, tout s'est arrêté, les gens sont... Question 2. Parce que mai 68 était une rupture, tout s'est arrêté, les gens sont sortis dans la rue. Est-ce que vous croyez que dans ce contexte, la révolution permanente, c'est quelque chose de pensable, ou n'est-ce pas plutôt une idée antithétique?
Faites autrement, peut-être, sans nécessairement qu'on descende dans la rue, comme en mai 68, peut-être d'autres façons de voir la révolution, d'autres définitions qu'on peut y donner. Plus large, moi, je ne sais pas. Je pense que ça demeure le débat actuel aujourd'hui, un peu partout. Même dans le mouvement altermondialiste, il y a des débats de ce côté-là aussi. Comment déborder la lutte qui dit non vers la lutte qui dit on va vers de l'avant, plutôt une lutte défensive à une lutte offensive. Qu'est-ce qu'on fait? De quelle direction? Comment? Que veut dire révolution aujourd'hui? Est-ce qu'on se base encore sur les textes du passé, des idéologies? Tout ça laisse encore... à discuter, puis à regarder. Je pense qu'à quelque part, il ne faut pas avoir peur de le dire, mais pour l'instant, la gauche, très générale, avec tout ce qui peut comprendre la gauche, on ne peut pas dire que c'est nous qui sommes de l'attaque présentement. Il y a le creux de la vague, mais ça devrait nous permettre, nous, de réfléchir de comment remonter à quelque part. Puis je pense qu'on est dans cette période-là. Donc, les questions que vous posez, ou la question que vous posez, c'est une des questions fondamentales qu'il doit poser. De même que monsieur, quand il pose la question, parce qu'il faut se les poser, ces questions-là. Peut-être parce qu'on n'est pas nécessairement... On n'est pas, je pense, au premier point de l'ordre du jour. Je pense que la gauche n'est pas. Là. Je pense que c'est les conservateurs qui mènent la baraque de ce temps-là. Mais ça devrait nous... Même si c'est très négatif, ça devrait nous... Nous, ça nous donnait l'élan pour vraiment réfléchir à ces questions-là, puis commencer à voir autrement les choses aussi. Moi, je pense qu'on est là.
Mais je pense qu'une signification qui nous interpelle, c'est précisément de nous... On a, avec 68, une explosion dans la contingence d'un désir profond lié à notre époque. Un désir partagé, au fond de nous-mêmes, d'être... affranchi des rapports marchands qui nous traversent entièrement et nous déterminent en quelque chose ou nous contraint à penser en termes marchands. Hein, et je pense qu'il a un désir qu'on doit justement aviver, hein, cette raison de vivre finalement, hein, cette raison de vivre dans une société justement qui... finalement se réduit à faire vivre la machine, quoi. Alors nous dans ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'elle est dans cette expression des forums civiques, de cette politique qui prend la parole, qui rompt les fonctions et les rôles, c'est cette volonté finalement de créer communauté, créer sens dans un vivre qui l'est de moins en moins parce qu'elle est divisée en fonctions, en rôles, en titres et qui ne crée pas justement un lien, une raison de vivre, au-delà d'un simple justement de ce métro boulot dodo, quoi,
Et on doit le redire ça, encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que vivre finalement. Et je pense que 1968 nous le rappelle, et rappelle l'exigence précisément de rompre les chaînes qui nous entravent et que l'on peut orner, que l'on peut considérer comme des ornements. Hein. Et précisément par la fonction médiatique. Et je pense que ça, déjà, je pense que cette révolution permanente, c'est celui de se retourner soi-même pour dire qu'est-ce qu'on est là ensemble et qu'est-ce qu'on doit faire de ce monde, hein, et qu'est-ce qu'on est en train de le faire. Est-ce que je suis prêt à le laisser faire comme il le fait, ou je résiste précisément, je dis non et je romps la mécanique. Et je pense que c'est ce moment-là qu'il s'agit de nourrir, hein, et de convoquer, on peut dire, dans nos actions et dans nos paroles. On me dit qu'il reste très peu de minutes avant de terminer. Alors je ne sais pas s'il y a encore les mains qui s'agitent, qu'ils le fassent le plus vite possible et en résumant un peu donc vos pensées. Oui.
Je vais commencer par la fin du raisonnement. Et qu'on n'a pas le temps,
Question 3. Trois questions ont été posées ici, l'une à la suite de l'autre. Première question. Si mai a été une reprise de parole des ouvriers, on leur a cédé la parole, mais cette parole est quand même autorisée par les institutions universitaires ou autres, sans jamais, semble-t-il, qu'on interroge les ouvriers eux-mêmes sur le sens historique qu'ils donnent à mai 68. Si on les interrogeait, leur réponse ne risquerait-elle pas de différer radicalement de ce que nous, on peut en dire? Deuxième question. 68, 69, 70, c'est au Québec... Autre question. 68, 69, 70, c'est aussi au Québec les mouvements amérindiens par le biais des États-Unis où nous nous sommes posé la question de comment faire pour donner la parole à l'oralité, mais tous ces événements ont aussitôt été oblitérés. Il ne faut pas perdre de vue ces regards hauts sur l'histoire. Dernière question. Il semble que les interventions sur l'héritage de mai 68 qui ont été faites ici n'ont pas tenu compte de la misère du peuple qui est toujours présente aujourd'hui partout.
Tout à fait. Je pense qu'on est dans un monde qui creuse le fossé entre riches et pauvres. Je pense que ça... Il faut justement, on est de plus en plus dans l'urgence de penser autrement notre monde. Ça, je pense que sinon, on arrivera à une catastrophe, c'est sûr.
Moi, je trouve que vous avez raison, monsieur. C'est clair que ce n'est pas le logiciel libre. J'ai essayé de citer des nouvelles avenues des luttes, mais les luttes dont vous parlez, c'est-à-dire fondamentales contre la pauvreté et... contre la dévalorisation de la vie, l'effritement de la vie quotidienne pour plein de gens. Je veux dire, ça, ce sont les luttes fondamentales qui restent.
Petit mot pour conclure.
Pour répondre, non-réponse à André quand même, ça serait contre l'esprit même de 68 de parler à la place des ouvriers en répondant à ta question.
Question. Il faut la poser. Vous avez tout à fait raison.
Je ne sais pas si dans Paris Match ou
non.
Dans l'Express, non. Même dans Libération, non. Même dans vos revues respectives, c'est juste l'idée d'aller, oui. Ce geste-là d'aller vers.
La revue Vacarme l'a fait.
Ouais. Véronique avait un texte de Blanqui.
Non, pas de Blanqui, mais sur Blanqui. Blanqui. Okay. C'est-à-dire que Blanqui, ça me semblait être une figure assez intéressante. Et c'est un militant de la Commune de Paris, entre autres. Et, enfin, il était en prison au moment de la Commune de Paris, en effet. Et il a passé plus de temps en prison dans sa vie. Et donc, c'est un éternel combattant, un éternel insurgé, un éternel enfermé. Et je trouvais intéressant de l'évoquer parce que je pense que dans le texte de Ben Saïd, dans À bâbord, il est cité. Je pense que Rancière vient de faire une nouvelle préface au livre
Éternité
des astres. Par les astres, en effet, de Blanqui. Et quand on avait fait, nous, un numéro sur les héros, qui est un drôle de thème, je vous l'avoue, le philosophe Paolo Virno nous avait confessé qu'effectivement, Blanqui était son... S'il avait un héros, ça pourrait être celui-là. Et il avait écrit, ce que je trouvais assez intéressant, bien que l'ordre cosmique semble donner un coup de main à la société bourgeoise, parce que Blanqui dit qu'il y a une espèce de retour éternel. Blanqui considère que la lutte contre l'état des choses actuelles est à la fois opportune et nécessaire. Peu importe que l'issue soit corrue d'avance, il faut toujours reprendre l'insurrection du début, puisque l'injustice, elle aussi, toujours reprend. C'est ce manque absolu d'illusion qui fait de Blanqui un héros acceptable. Voilà, c'était juste.
Merci. Je pense que tout ce que je peux inviter pour conclure, c'est de se laisser habiter précisément par ces spectres bienfaisants, tels Blanqui et beaucoup d'autres, qui ont peut-être le pouvoir justement d'ouvrir nos désirs de les réaliser. Merci.
Bonsoir.
C'est pas pour faire gauche caviar, mais on vous invite quand même à rester pour un verre de vin.
C'est
les vins de l'ensemble. Merci.
C'est bien.